mon père, mon fils et du Saint-Esprit, soit-il, mais bien chers amis, il est une réalité que nous connaissons tous, au moins, plus ou moins, c'est-à-dire que nous saisissons tous, d'une manière plus ou moins juste, plus ou moins confuse, c'est celle de la présence du Christ dans ses membres. De la présence du Christ dans l'âme des chrétiens, de la présence du Christ en nous, de la présence du Christ dans l'âme de notre prochain. Saint Jean Berthemin, ce jeune jésuite mort à 22 ans, surnommé par ses confrères novices l'ange de la maison ou encore le saint joyeux, Saint Jean Berthemin avait une telle foi que quand il rencontrait une personne, dit-on, il commençait par s'incliner devant Jésus présent dans cette personne. Plus proche de nous, dans le temps, la bienheureuse Mère Teresa, nous la citons beaucoup, la bienheureuse Mère Teresa, par contre, à ses sœurs, au Seigneur de la Charité, leur disait un jour dans une conférence, respectez-vous les unes les autres. J'ai l'habitude de m'incliner devant Jésus, dans le cœur de chaque personne. Présence mystérieuse du Christ en nous. Pour nous aider à comprendre l'union profonde qui existe entre notre Seigneur Jésus-Christ et nous, nous nous servirons d'une comparaison. Nous trouvons celle-ci déjà chez saint Paul et également à saint chez les pères de l'Église. Nous nous servirons de cette comparaison qui est faite entre l'Église et le corps humain. L'Église est comparée à un corps dont le Christ est la tête et dont nous, nous sommes les membres. Le pape Pie XII, en 1943, quand il écrira une grande encyclique sur l'Église, l'intitulera « Le corps mystique du Christ ». Saint Augustin reconnaît cette image et n'hésitait pas même à dire « Le Christ nous a incorporé à lui. Il nous a fait ses membres. En lui, nous voilà devenus le Christ. Nous sommes bien réellement son corps. En lui, nous sommes dépendants du Christ. Bien mieux, disait-il, nous ne sommes pas seulement dépendants du Christ, mais nous sommes le Christ. Écoutons maintenant saint Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et en disant cela, l'apôtre nous explique que le Seigneur n'a pas pu seulement faire de nous les membres de sa famille. Le Seigneur n'a pas pu seulement faire de nous ses frères par la grâce sanctifiante qu'il ferait couler dans nos veines. Mais quelque part, il veut bien plus, il veut vraiment nous faire devenir quelque chose de lui-même. Je suis la vigne, dira Jésus, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme une greffe, nous avons été, dira saint Paul, hanté sur le Christ, et il ajoute, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur, ne nous a pas sauvés de loin. Il ne nous a pas sauvés, si l'on peut parler ainsi, en signant un chèque pour nous racheter. Non, il s'est fait l'un d'entre nous. Il s'est uni à notre humanité et cette union demeure encore aujourd'hui. Il y a, entre notre Seigneur et nous qui sommes baptisés, une union extrêmement forte, puisque nous sommes les membres du Christ. Vous tous, qui avez été baptisés dans le Christ, dit saint Paul, vous avez revêtu le Christ. Saint Jean Chrysostome disait de juifs, de païens, d'esclaves, nous voilà devenus quoi donc ? Des anges ? Non pas. Des Christs ambulants ou d'autres. Et c'est pourquoi la bienheureuse Mère Teresa demandait à ses sœurs missionnaires de la charité, en leur parlant des malades et des mourants dont elles avaient la charge, peuvent-ils lever les yeux et voir Jésus en vous ? Saint Paul disait très simplement ce que tout chrétien devrait finalement pouvoir dire de la même manière : ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pour moi, disait-il encore, vivre, c'est le Christ. La vie du chrétien, notre vie, n'est pas une vie indépendante. Elle n'est pas une vie détachée et individuelle. Nous ne sommes pas, comme l'on dit aujourd'hui, des électrons libres. La vie du chrétien est une vie qui doit être profondément unie au Seigneur Jésus. À tel point que, d'une certaine manière, le Christ prolonge encore son œuvre en nous. Cette œuvre qui est la sienne, elle n'est pas achevée. Elle doit se poursuivre dans la vie de ses membres. Le Christ vit en nous et il veut que nous soyons porteurs de sa vie dans le monde qui nous entoure. Le Christ a vécu 33 ans parmi nous et pourtant sa vie parmi nous n'est pas tout à fait achevée. Regardez, notre Seigneur a suivi sa passion pour nous sauver. Il est bien évident qu'il aurait pu, par ses souffrances, sauver un nombre infini de mondes comme le nôtre. Il ne manque rien à la passion du Christ. Cette passion, elle est terminée. Et pourtant, saint Paul dit encore, j'achève dans mon corps aujourd'hui ce qui manque aux souffrances du Christ. Saint Paul le dit encore plusieurs fois, avec le Christ nous sommes morts. Avec lui nous sommes ensevelis. Avec lui nous sommes ressuscités, avec lui nous régnons dans les cieux. Pourquoi cela ? Eh bien parce que sa vie est la nôtre et sa vie anime la nôtre. Parce que la tête et les membres ne peuvent pas être séparés. Et cette doctrine est très importante pour notre vie spirituelle car elle nous rappelle que nous sommes invités sur terre non pas seulement à imiter le Christ, mais surtout à le laisser revivre en nous. Car il est la tête et nous sommes les membres d'un même corps. Elle nous rappelle que quand nous souffrons aujourd'hui, nous ne souffrons pas seuls, mais nous unissons, et c'est extraordinaire, cette souffrance à celle du Christ qui, quelque part, souffre en nous ou souffre avec nous parce que le Christ sur la croix, il y a 2000 ans, a porté notre souffrance d'aujourd'hui. Et il nous invite à unir cette souffrance d'aujourd'hui à la sienne d'alors. Quand nous sommes humiliés, c'est aussi le Christ qui est humilié en nous et qui nous demande d'accepter avec lui cette humiliation. Quand nous faisons le bien, c'est le Christ qui agit en nous. Quelque part, le chrétien donne aujourd'hui au Christ une nouvelle humanité. C'est-à-dire qu'il va permettre, s'il l'accepte, à la bonté divine de se manifester à travers nos actions. Il va permettre, s'il l'accepte, à la souffrance symbolique du Christ de se poursuivre à travers notre souffrance à nous, qui est une souffrance de membre. Quand un membre souffre, dit saint Paul, c'est tout le corps qui souffre. Le chrétien doit permettre à la prière du Christ, toujours agréée par Dieu, de se poursuivre à travers sa prière, et particulièrement bien sûr la prière liturgique, c'est-à-dire la prière de l'Église. Oui, le Christ vit dans ses membres. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité exprimait cette idée de prolongement de la vie du Christ à travers notre vie dans une prière qu'elle avait composée. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir, mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Ô feu consumant, esprit d'amour, disait-elle, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Voilà, le mot est dit, nous devons être ici-bas pour notre Seigneur une humanité de surcroît. Et nous savons que certains saints l'ont été de manière particulièrement claire, particulièrement visible, que de manière particulièrement manifeste, le Christ a vécu en nous. Et l'on peut penser aux stigmatisés comme saint François d'Assise ou saint Padre Pio, ou plus proche de nous, la bienheureuse Anne Scheffer, qui ont participé de manière physique aux souffrances de la passion de manière exceptionnelle, qui ont permis ainsi au Christ, d'une certaine manière, de poursuivre à travers de sa passion. Le bienheureux Raymond Capon, qui était le confesseur de Sainte-Catherine de Sienne, entendit un jour celle-ci lui raconter des grâces exceptionnelles et les merveilles divines qui s'opéraient dans son cœur à elle. Et comme il était un peu sceptique sur ce qu'elle lui disait, il leva les yeux sur la sainte et sous les traits de Catherine, que dit-il ? Jésus lui-même. L'on peut penser également aux prêtres. Aux prêtres qui, sur terre, quand ils administrent les sacrements, même s'ils sont eux-mêmes pécheurs, sont d'autres Christ. N'est-ce pas le Christ qui, à travers eux, bénit, qui, à travers eux, guérit, qui, à travers eux, nourrit les âmes des fidèles qui leur sont confiés. L'on peut penser aux successeurs des apôtres, les évêques, desquels notre Seigneur a dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Oui, le Christ est bien présent dans ses membres, même si ses membres peuvent rester pécheurs eux-mêmes. Mais sans rentrer dans ces cas un peu particuliers, comprenons que cette vie du Christ en nous, cette vie du Christ dans l'âme de ceux qui sont en état de grâce, ce n'est pas seulement un vœu pieux. Ce n'est pas seulement une manière de parler pour nous inviter à faire un effort vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis du prochain, mais c'est une réalité profonde que nous sommes invités à scruter avec attention, car en effet c'est elle qui changera profondément notre manière d'être avec notre prochain et notre manière d'agir avec nous-mêmes. Et elle nous invitera surtout à rendre grâce. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dira saint Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prenons donc les membres du Christ, ajoutait-il, en ferai-je les membres d'une prostituée. Oui, le Christ vit dans ses membres tant et si bien que quand se mêle sa Paul, alors Saül, persécuteur des chrétiens, quand il est terrassé sur le chemin de Damas, il demande un peu perdu au Seigneur, « Qui es-tu ?» Et la voix lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Est-ce que saint Paul avait arrêté directement le Christ? Non, c'était les chrétiens qu'il persécutait avec acharnement. Alors pourquoi cette réponse, « Je suis Jésus que tu persécutes », si ce n'est que le Christ non seulement vit en nous, mais encore, il veut s'identifier à ceux qui lui sont unis. Je suis Jésus que tu persécutes, n'est-ce pas pourquoi Pascal pourra dire encore, bien des siècles plus tard, Jésus-Christ sera à la gloire jusqu'à la fin du monde. Oui, notre Seigneur poursuit sa vie et sa passion dans ses membres. Le Père Léon-Prix, fondateur de l'aide à l'Église en détresse, écrivait également, songeant aux persécutions incessantes contre l'Église, le Vendredi Saint dure toujours. Et aussi l'agonie, la raillerie, les mauvais traitements, la haine, l'ingratitude, la défaillance humaine, l'indicible souffrance, là au chemin de croix et la mort ignominieuse du Christ notre Seigneur, il ne dure plus aujourd'hui dans son propre corps sacré, mais en ceux qui, par la grâce, vivent sa vie et sont ses membres. Le Vendredi Saint dure toujours, Vendredi sanglant de l'Église en détresse. Notre Seigneur vit dans ses membres et notre Seigneur est persécuté encore aujourd'hui et peut-être même aujourd'hui plus que jamais en bien des endroits. Je suis Jésus que tu persécutes. Les saints sur terre, ceux qui ont su le mieux suivre le Christ et le reproduire, ceux qui ont su le mieux comprendre son enseignement, ceux qui lui ont été le plus fidèles, ceux qui finalement l'ont laissé agir en eux, eh bien, les saints, c'est une constante, ont toujours essayé de voir dans le prochain le visage du Christ. Les saints ont toujours gardé présent à l'esprit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que, s'il est de plus en état de grâce, il est alors vraiment habité, animé par la grâce divine. Alors bien sûr, cette image de Dieu, elle est parfois, et elle est même toujours, abîmée par le péché. On a parfois malheureusement bien du mal à voir rayonner le Christ à travers nous. Mais on ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas ôter complètement de la créature la marque du Créateur. À chaque fois que nous péchons, encore une fois, bien sûr, nous abîmons et nous ternissons cette image divine en nous. Dans le chemin de croix qu'il prêchait au Colisée quelques jours avant son élection au souverain pontificat, le cardinal Ratzinger alors disait « Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient, mais c'est nous-mêmes qui les salissons. » L'Église est sainte, mais composée de pécheurs, et l'Église est le corps mystique du Christ. En dehors de la présence par la grâce du Christ dans une âme, cette présence qu'il nous est d'ailleurs difficile de connaître absolument, puisque nous ne savons pas, même parmi les baptisés, qui est en état de grâce et qui ne l'est pas de manière sûre. Il est des âmes toutes particulières que notre Seigneur nous a demandé de regarder, nous a demandé de traiter, nous a demandé de considérer avec un regard de foi comme d'autres lui-même. Ce sont ceux qui sont dans la pauvreté ou dans la souffrance. Ce sont encore les plus petits et les plus faibles. Ouvrons nos saints évangiles, et en particulier cet évangile que nous avions le lundi de la première semaine de carême, n'est-ce pas notre Seigneur qui nous disait et qui nous dit encore aujourd'hui, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité. Et quand les apôtres étonnés, comme nous pouvons l'être aujourd'hui, lui diront « Mais quand donc ?» Le Christ leur répondra « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Présence là encore mystérieuse du Christ dans ses membres, cette présence nous devons la croire et les saints y ont cru. Pensons à saint Martin, encore catéchumène, soldat qui, à la porte d'Amiens, donne la moitié de son manteau à un pauvre. Il n'est pas dit d'ailleurs que ce pauvre était chrétien. Et le soir, il voit le Christ lui apparaître en songe, revêtu de ce vêtement. Saint Vincent de Paul disait « Quel honneur de visiter Jésus-Christ, d'habiller Jésus-Christ. Ne voyez que les pauvres, ils vous repousseront, vous fuirez. Voyez Jésus-Christ. Jésus-Christ seul, il vous attirera, il vous ravira. Nos pauvres et nos malades, disait-il, ce sont nos seigneurs et nos maîtres, puisque notre Seigneur est en nous. » Saint Camille de Léris, soignant dans son hôpital un pauvre aux allures repoussantes et aux plaies béantes, est fait demander par le cardinal et lui fait répondre qu'il viendra dans quelques minutes. Redemandé à nouveau, il le fait encore attendre. Redemandé encore une fois, il dit à un de ses frères, dit à son éminence, que je suis avec Jésus-Christ et que je verrai son éminence quand j'en aurai fini avec Jésus-Christ. Pensons à saint François d'Assise embrassant comme il aurait embrassé le Christ lui-même, un lépreux, alors qu'il avait cette maladie particulièrement en horreur. Oui, comme le dit la chanson, Jésus-Christ s'habille en pauvre. Si une personne proche de nous dans le temps fut bien persuadée de cette réalité, c'est la bienheureuse Mère Teresa, bienheureuse Mère Teresa, qui a beaucoup à nous apprendre, sa foi en la présence du Christ, dont le plus petit de ses frères, était si forte, si réelle, que chaque rencontre avec les pauvres signifiait pour elle une rencontre avec le Christ lui-même. Nous sommes, disait-elle à ses sœurs, nous sommes des contemplatives en action au cœur même du monde, nous qui voyons, aimons et servons Jésus 24 heures sur 24, sous le déguisement désolant des pauvres des pauvres. Dans les bidonvilles, disait-elle, Jésus choisit comme déguisement la misère et la pauvreté. Vous ne pouvez pas respecter le vœu de charité si vous n'avez pas la foi nécessaire pour voir Jésus dans les gens avec lesquels nous entrons en contact. Autrement, disait-elle, notre travail n'est rien de plus que du travail social. Et ce regard de foi que nous sommes invités à avoir dans le plus petit, puisque notre Seigneur nous a dit que ce que nous aurons fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui-même que nous l'aurons fait, ce regard de foi transforme notre bonne volonté et évidemment nous encourage à pratiquer envers notre prochain cette charité que nous devons à Dieu. C'est ainsi que Raoul Folbo pouvait dire si justement la charité, c'est la projection du visage du Christ sur le visage du pauvre. La bienheureuse Mère Teresa disait encore, chaque personne est le Christ pour moi. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'une seule personne au monde pour moi à ce moment-là. Alors, vous direz peut-être, d'accord, le Christ vit dans ses membres, c'est-à-dire dans les personnes qui sont en état de grâce. Si quelqu'un m'aime, disait notre Seigneur, mon Père est mourra. Et nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure, c'est vrai. Mais dans les autres, dans les pécheurs et dans les âmes qui ouvertement combattent Dieu et son royaume, devrons-nous voir le visage du Christ? Eh bien non. En tant que nous les regardons comme pécheurs, j'entends bien sûr pécheurs graves et manifestes, nous ne pouvons pas les regarder en même temps en cela comme le Christ, car le Christ s'est fait l'un d'entre nous en toutes choses, sauf justement en ce qui concerne le péché. Et il est bien clair que nous ne pouvons pas voir ou essayer de voir le visage du Christ dans les grands persécuteurs en tant qu'ils sont persécuteurs, sinon notre Seigneur pourrait dire « Je suis Jésus que tu persécutes et je suis Jésus qui persécute » et cela n'aurait pas de sens. Car le pécheur entend qu'il est pécheur et que nous le considérons sous cet angle est justement celui qui retranche de son âme le lien qui m'attachait à lui. Mais rappelons-nous toutefois que ce pécheur est appelé lui aussi à devenir un autre Christ, c'est-à-dire à se convertir. Rappelons-nous que le Christ a répandu son sang pour le sauver et que nous sommes appelés à faire de même. Derrière ce grand pécheur, nous devons apercevoir au loin, comme en arrière-plan, l'image du Christ qui veut devenir aussi la sienne. Son âme a été créée, elle aussi, par Dieu et pour Dieu. Et par-dessus toute chose, rappelons-nous que si nous ne voyons pas en lui le regard du Christ, nous devons par contre toujours le regarder avec le regard du Christ. Par contre, comme nous disions, nous devons voir le visage du Christ dans le prochain qui souffre, toujours. Peut-être ne connaît-il pas lui-même le Christ, ou peut-être même l'a-t-il rejeté, c'est possible, mais considérons-le sous l'angle de la souffrance et non pas sous l'angle du péché. Notre Seigneur, comme le prophétisait Isaïe, a pris sur lui toutes nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Lors de sa vie sur terre, particulièrement lors de sa passion, le Christ a souffert la souffrance due à nos péchés personnels. Mais il a voulu souffrir aussi tout ce qui est dû au péché originel, comme la mort, la maladie ou la souffrance physique. C'est pourquoi ces souffrances que nous voyons autour de nous, ces maladies de toutes sortes, ces infirmités liées au péché originel ou au péché actuel, le Christ les a d'une certaine manière portées lors de sa passion. Il a porté sur lui, lors de l'avenir au jardin des Oliviers, toute la détresse du genre humain. Il a porté et embrassé pendant sa passion toutes les souffrances physiques que nous connaissons. Il a épousé notre misère. Et c'est pourquoi, quand nous voyons l'un d'entre nous souffrir, qu'il soit juif, grec, païen ou chrétien, nous pouvons nous dire que cette souffrance, le Christ l'a fait sienne. Et nous devons vouloir la soulager. Nous est-il possible de l'atténuer, cette souffrance qu'a connue notre Seigneur? Eh bien oui. De même que nos péchés d'aujourd'hui ont concouru a ajouté de l'intensité à la passion du Christ hier, et bien nos actes de charité aujourd'hui sont une consolation que notre Seigneur a pu connaître et ressentir lors de sa passion. Et c'est pourquoi nous devons voir dans la misère de notre prochain, qu'il soit encore une fois chrétien ou non. Nous devons voir la misère du Christ à soulager. Quand le pape Jean-Paul II a béatifié sœur Marie-Catherine Troiani, il a pu dire d'elle, sa charité n'est jamais d'exclusive, parce que en toute personne, marquée par la souffrance, sœur Marie-Catherine voyait le visage souffrant du Christ. La bienheureuse Mère Thérésa disait bien des fois, Jésus vient à nous dans la souffrance. Le carême, disait-elle, c'est justement cela, c'est prendre part à la passion du Christ. Nous ne pouvons pas le faire à Jésus, comme les apôtres étaient invités à le faire, ils étaient invités à prendre part à sa passion. Cet amour, cette compassion que nous aurions aimé lui donner à ce moment-là, nous sommes appelés à lui donner ici même. Et elle disait, nous voulons faire quelque chose pour Dieu Tout-Puissant, et puisque nous ne pouvons pas atteindre Dieu et le faire directement à lui, nous le servons dans les pauvres de l'humble. Bien sûr, ce service rendu aux pauvres, il doit être fait en esprit de charité. C'est-à-dire en voulant vraiment donner un peu d'amour de Dieu. Saint François de Sales disait, mon Dieu, faites que j'approche de vous ceux qui s'approchent de moi. Avant d'aller voir la malade, Mgr Kika faisait cette prière, Seigneur, je vais aller trouver un de ceux que vous avez appelés, d'autres vous-même. Faites que cet instant passé auprès de lui, en cherchant à lui faire du bien, porte pour lui comme pour moi des fruits de vie éternelle. Oui, nous devons nous efforcer de voir le visage du Christ dans le visage du pauvre. Saint Augustin disait en parlant du jugement dernier, le Seigneur se tournera alors vers les mauvais. Javel leur dira-t-il, j'avais placé sur terre les petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon père, mais sur la tête mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains. C'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. Saint François de Lima disait, quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. Maintenant, avant de conclure, nous pouvons nous poser cette question, pourquoi si souvent ce visage du Christ, pourquoi si souvent sommes-nous incapables de le voir chez les pauvres et chez les malades? Pourquoi sommes-nous si souvent incapables de le voir chez notre prochain? Eh bien, Mère Thérésa nous donne la réponse quand elle dit, en faisant référence à la béatitude, pour être capable de voir le visage de Dieu, il faut un cœur pur. Bienheureux, en effet, les cœurs purs, car ils verront. Et notre cœur, c'est ainsi, et bien souvent, malheureusement, un cœur mélangé. Un cœur pas assez pur pour nous permettre de reconnaître le visage de Dieu dans le visage du prochain. Nous avons dit jusqu'à présent que le Christ était présent dans ses membres, que nous devions nous efforcer de le voir dans les pauvres particulièrement et dans tous ceux qui souffrent. N'oublions pas que le Christ est aussi en nous. Et que nous avons donc le devoir de refléter dans notre vie la vie du Christ. Nous avons le devoir, parce que nous sommes chrétiens et que nous sommes possédés par le Christ, et bien de le rayonner autour de nous. Et particulièrement, de rayonner sa joie. Je suis venu pour qu'ils aient la joie de Jésus et que leur joie soit parfaite. Bien sûr, il s'agit là d'une joie toute surnaturelle. La joie d'être uni à Dieu et de se savoir aimé de lui au point qu'il habite en nos cœurs. Le rayonnement de cette joie, c'est le rayonnement de Dieu lui-même. Dieu rend heureux. Le nouveau président de la conférence épiscopale américaine, il y a quelques semaines, racontait au collège des cardinaux et au Saint-Père lui-même qu'un homme mourant du sida dans un hôpital administré par les missionnaires de la charité dans l'archidiocèse de Washington, un homme mourant du sida demanda de la guérison. Et quand le prêtre l'invita à donner les raisons de cette demande, le mourant murmura : tout ce que je sais, c'est que je suis malheureux. Or, ses sœurs sont très heureuses, même quand je les maudis et leur crache dessus. Hier, je finis par leur demander pourquoi elles étaient si heureuses, et elles m'ont répondu : Jésus. Je veux ce Jésus afin de pouvoir enfin être heureux, moi aussi. Notre rôle, notre mission à chacun d'entre nous est de montrer le Christ qui nous habite, de montrer son visage qui fait la joie des anges. Sans même dire une parole, nous devrions, par notre manière d'être, par notre sourire, par notre délicatesse, par notre politesse, nous devrions être une véritable prédication du Christ. À chaque fois qu'une personne entre en contact avec nous, disait Mère Teresa, il faut qu'elle devienne différente et meilleure du fait qu'elle nous a rencontrés. Nous devons rayonner l'amour de Dieu. Pour cela, nous devons être conscients de sa présence dans nos âmes, par sa grâce. Et pour nous aider à réaliser cette présence, eh bien, nous devons nous adresser souvent, très souvent même à ce Dieu qui est si proche qu'il s'est fait l'un d'entre nous, qui s'est même fait tout à nous, qu'il habite dans notre cœur. Nous devons lui parler souvent, très souvent, et surtout l'écouter. Et c'est pour cela que la prière, c'est-à-dire l'élévation de l'âme vers Dieu, est si importante dans notre vie. Il faut qu'il croisse, disait saint Jean-Baptiste, et que je vive. Le pape Benoît XVI disait aux cardinaux de la Curie dans la présentation de ses vœux de nouvelle année, il y a quelques semaines, il m'est venu à l'esprit l'image de la femme de Lot, qui, regardant en arrière, devint une colonne de sel. Combien de fois la vie des chrétiens est caractérisée par le fait qu'ils regardent surtout vers eux-mêmes, et combien est grande la tentation pour tous les hommes d'être préoccupés surtout d'eux-mêmes, de regarder en arrière vers eux-mêmes, devenant ainsi intérieurement vides, des colonnes de sel. Mais bien, chers amis, bienheureux des cœurs purs d'eux-mêmes, libérés d'eux-mêmes, pour nous dire car ils verront Dieu. Demandons la grâce de savoir reconnaître le Christ là où il se trouve. Nous méditerons cette semaine sur la Passion et nous entendrons notre Seigneur nous dire du haut de la croix, j'ai soif. En disant j'ai soif, dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était l'amour de sa créature que le Créateur réclamait. Et bien tâchons d'apaiser aujourd'hui cette soif chrétienne, cette soif qui dure encore, tâchons de l'apaiser en répondant aujourd'hui en répandant cette semaine et durant toute notre vie autour de nous, où que nous soyons, la charité du Christ, cette charité du Christ qui a été, comme le dit saint Paul, répandue dans notre cœur, car le Christ vit en nous